Galaxy 98.5.
Aujourd'hui sur Radio Galaxy, on vous présente la prochaine conférence organisée par La Pub en Vol et cette fois-ci en collaboration avec l'association Histoire et Tradition Carbonaise. Ce sera le mercredi 22 avril à Rieux-Volvestre et là on va plonger dans l'histoire ou peut-être même dans la légende car on va parler de D'Artagnan. On va essayer de voir ensemble qui était vraiment ce personnage et pourquoi est-il devenu légendaire. C'est Christian Lacombe qui va nous éclairer et qui est le prochain conférencier. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Tu es historien local et membre de l'association Histoire et Tradition Carbonaise. Alors, je me permets de te tutoyer puisque c'est toi qui anime les émissions d'Un Brin d'Histoire que vous entendez régulièrement sur nos ondes ou en podcast sur radiogalaxie31.com. Alors, explique-nous qui est vraiment D'Artagnan, alias Charles de Batz de Castelmaure.
Bien, eh bien, écoutez, j'ai voulu vous parler d'un maréchal de camp des armées de Louis XIV. On n'en a pas trop entendu parler. Mais il est devenu, par la magie d'un génie littéraire, Alexandre Dumas, le plus illustre des fils de Gascogne. Alors, qu'en est-il de la vie de ce mousquetaire, de l'homme? On va l'étudier, on va en parler. Et du mythe aussi, on va vous le proposer.
Alors, il est né à Lupiac, très précisément, en Gascogne. Est-ce que tu peux nous raconter quels sont les grands moments de sa vie et qui l'ont rendu légendaire?
Il est d'une famille de 7 enfants, né à Lupiac, on ne sait pas l'année exactement.
D'accord.
À 2 ou 3 ans près.
Ok.
Mais il est d'une famille de Castelmaure, de Lupiac, où il y a le château, toujours. Mais sa mère fait partie de la noblesse gasconne, des Montesquieu. Et c'est très important, parce que tous les jeunes nobles, nobiliaux, partaient tous l'épée à la main pour conquérir la capitale. C'était après Henri IV, tout ça, et les Gascons étaient aimés à Paris, et puis ils faisaient un petit peu la loi à Paris. Voilà. Donc, notre ami est parti avec un vieux cheval, très peu d'argent, déjà ses parents étaient ruinés, mais avec une lettre à fournir au grand capitaine Tréville, qui était aussi un Béarnais. Et il était de Pau, Tréville, le capitaine de tous les mousquetaires du roi. Et donc, par conséquent, c'est une lettre d'introduction qu'on présentait en arrivant à Paris. Et on était souvent, pas mousquetaire, mais cadet dans les mousquetaires. Et il fallait faire ses preuves ensuite, pendant 2, 3, 4 années. Voilà.
Et alors, pour quelle raison il va se faire appeler D'Artagnan ?
D'Artagnan, c'est un petit village, et sa mère était une D'Artagnan. Donc, par conséquent, lui n'aurait pas dû s'appeler D'Artagnan. L'héritage aurait dû être à son frère aîné. Mais il s'est appelé lui-même D'Artagnan dès qu'il est rentré chez les mousquetaires, par honneur sans doute à sa famille et à ses anciens.
En tout cas, tu nous l'as dit, c'est Alexandre Dumas, bien sûr, qui va le rendre célèbre avec son roman « Les Trois Mousquetaires », une œuvre mondialement connue. Il a été adapté au théâtre et au cinéma, donc on voit que c'est un personnage qui passionne et à la fois qui intrigue et qui laisse des interrogations.
Oui, alors je vais parler sans doute de Dumas, parce que c'est un grand personnage ce soir-là. Mais je ne voudrais pas trop développer. Je vais dire simplement que Dumas était un personnage, un grand écrivain, mais aussi il a profité de certains écrits précédemment. Et l'histoire de D'Artagnan avait été écrite déjà, l'histoire de ce mousquetaire, par Gatien Courtil de Sandras en 1700. Mais ça n'avait pas, disons, la qualité de ce qu'a pu apporter Dumas par la suite. Alors, Dumas a puisé dans cet ouvrage entièrement. Tous les personnages étaient déjà installés. Mais il l'a amélioré, il y a apporté son talent. Et voilà, c'est ça. Donc, par conséquent, c'est devenu un livre de cap et d'épée extraordinaire. Hein, extraordinaire. Surtout que Dumas l'a écrit en 1843, après avoir écrit des pièces de théâtre. Mais il a eu cette intuition d'écrire ce qu'on appelle des feuilletons littéraires dans les journaux. Et les gens se sont passionnés à lire quotidiennement les nouvelles. Donc, on achetait beaucoup de journaux. C'est le développement de la bourgeoisie de la presse sous Charles X, après, à ce moment-là. Et ça a été un grand rush d'achat de journaux. Les gens se sont disputés les ouvrages. Ça s'est publié. Après, il a réuni tous ces petits ouvrages en vendant des livres. Puis, après, il y a eu des affiches, il y a eu toute une sorte de, voilà, de publicité. Ça s'est, disons, développé économiquement. Ça lui a rapporté énormément d'argent, mais il l'a dépensé au fur et à mesure. Hein, parce que Dumas, c'était un homme qui vivait bien, c'était un osseur, un homme à femme, disons, hein, qui aimait les femmes. Et donc, par conséquent, qui a dépensé tout ce qu'il a gagné. C'est une vie aussi d'aventure qu'il a eue.
Ce qui veut dire que dans ces adaptations, il y a une part de fiction, mais il y a quand même une part de vérité.
Effectivement. Courtis de Sandras, quand il a écrit Les Mousquetaires, hein, il s'est appuyé sur la vie de D'Artagnan, qu'il a connu comme collègue hein, en tant que mousquetaire. Mais Dumas, lui, a repris les mêmes personnages et il les a enjolivés, disons. Il les a fait valoir.
Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est une conférence exceptionnelle à ne pas manquer le mercredi 22 avril. Ce sera à 20h à la salle polyvalente de Rueil-Volvestre. Christian, on peut parler également de cette fin tragique de D'Artagnan. Nous sommes en 1673.
Oui.
Qu'est-ce qu'il va se passer ?
Nous sommes en pleine guerre. Il y a eu des guerres en permanence sous Louis XIV. Hein. Et il y a cette guerre de Hollande où Louis XIV souhaite s'emparer de la Hollande. Alors, arrivé à Maastricht, bien sûr, il faut prendre la ville et il y a un siège. Ce siège va durer quelques jours, mais il était en bonne voie puisqu'il sera pris 2 ou 3 jours après la mort de D'Artagnan. Et c'était peut-être la dernière porte de la ville à conquérir. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que D'Artagnan était serein, il est allé se reposer. Ses troupes se sont, disons, reposées également. Et il a été remplacé par un groupe de Gallois, de soldats gallois qui étaient associés à ce moment-là à la France, avec le duc de Monmouth. Monmouth est une ville jumelée avec Carbonne aujourd'hui.
C'est vrai.
Le duc de Monmouth, qui est un jeune chef, qui a voulu à tout prix finir le travail, alors qu'il y avait un ordre de D'Artagnan de ne pas intervenir. Alors, D'Artagnan s'est mis en colère, il a voulu rattraper les choses, venir aider avec ses troupes, et il a été mortellement blessé par une balle de mousquet qui lui a traversé la gorge et qui est venue se loger dans les reins. Donc, la fin tragique de D'Artagnan, en Hollande, aux Pays-Bas, à Maastricht.
Et alors là, tout récemment, on est venu secouer un petit peu les théories, puisque dans certaines sources, on dit que D'Artagnan fut enterré dans l'église de Saint-Pierre et Paul de Volder, tout près de Maastricht, oui. Aux Pays-Bas. Plusieurs historiens refusent cette thèse, mais là, c'est tout récent. On vient de découvrir une dépouille qui pourrait être celle de D'Artagnan.
Effectivement, on est en train de faire des tests d'ADN et de carbone 14 actuellement, mais nous pensons que vraiment, c'est là qu'est enterré D'Artagnan, puisque les fouilles ont découvert un corps sous l'autel et on n'enterre pas, on ne met pas sous l'autel des personnages qui ne sont pas des chefs ou des saints.
On ne met pas n'importe
qui. Ou des ecclésiastiques importants. Donc, on a le corps, on a la balle qu'on a trouvée et on a aussi une pièce de monnaie de cette période de 1640 à 1660. Voilà. Donc ça, déjà, on a quelques éléments. Et la balle s'est logée dans les reins, en venant sans doute en trajet, en venant de la face.
Voilà, c'est un archéologue néerlandais qui l'a découvert. Ça reste à confirmer, mais de nombreux indices laissent à penser qu'il s'agit bien du célèbre mousquetaire. C'était lors de travaux de rénovation, en fait, d'une église de Maastricht, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que cette église était dans le camp des Français. Au milieu du camp, c'est la seule église ou chapelle qu'il y avait dans ce campement, donc de soldats. Donc on pense qu'il n'a pas été amené ailleurs que dans une église. Ça, c'est probable. Donc ça fait longtemps que les gens pensent à cela. Hein. Il n'a pas été amené ailleurs en France. Il n'y a pas de possibilité. On a cherché partout, à Lupiac, partout. Mais non. C'est vraiment, je pense, le bon endroit où il a été enterré.
Ce lieu correspondrait bien.
Ça correspondait.
Christian Lacombe, toi qui es historien local, est-ce que dans tes recherches, il y a un détail ou une anecdote méconnue qui t'a particulièrement surpris sur sa vie ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un homme qui a toujours été proche du roi. Il a un dévouement absolu, puisqu'il a été amené par Mazarin à sauver, lors de la Fronde, le jeune roi Louis XIV, qui avait 10 ans à peine, son frère et la reine. Donc, il a sauvé la famille royale lors de la Fronde. Mais on n'a jamais eu de traces écrites par D'Artagnan, parce qu'il ne parlait pas trop bien le français. Il était occitan avant tout, et il faisait beaucoup de fautes d'orthographe, sur ce qu'on peut avoir retrouvé. Ensuite, il était très discret. C'était un homme entièrement dévoué. Un homme, comme aujourd'hui, on aurait un garde du corps, très proche du roi, et le roi l'aimait beaucoup. Ça, c'est indéniable. Il a été très meurtri lors de la mort de D'Artagnan. Durant la conférence, je raconterai des choses extraordinaires. Savez-vous quel est le seul roi qui soit resté à Toulouse pendant un séjour? Les gens me disent « Oh, je ne sais pas, Henri IV... » Et non, il y a les rois visigoths, bien sûr, qui ont vécu à Toulouse.
Oui.
Mais il y a Louis XIV qui est venu 3 mois à Toulouse en 1659, avant son mariage sur la Bidassoa avec la princesse espagnole, l'infante d'Espagne. Donc, D'Artagnan était là, présent. Mmh. Il a assisté, il a accompagné. Et le roi l'a marié aussi. C'est le roi qui a marié D'Artagnan. Je crois qu'il a même fait rencontrer l'épouse, qui avait quand même des biens. Et il a signé l'acte de mariage de D'Artagnan, Louis XIV, et Mazarin, vous voyez, et d'autres. Mmh. Donc tout ça, c'est mystérieux, mais ça s'est produit dans l'histoire.
Qu'est-ce qui fait que son histoire continue de fasciner aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard?
Parce que D'Artagnan, c'est un mythe. C'est la Gascogne, c'est l'épée, c'est la cape et l'épée qui est venue à ce moment-là interroger les jeunes fougueux de l'époque. Vous savez que les duels étaient interdits sous le cardinal de Richelieu. Quand il est arrivé, il y avait encore le cardinal de Richelieu à Paris. Et donc, le cardinal de Richelieu a fait interdire les duels. Ces jeunes étaient fougueux, ils se battaient entre eux, c'est sûr. Et alors, les mousquetaires, vous savez ce qu'on disait des mousquetaires, magnifiques pendant la guerre, infernaux durant la paix. C'était des tombeurs de belles dames. Si vous voulez, il n'y avait pas encore les casernes. Les casernes sont venues plus tard, un petit peu vers 1650, mais avant, c'était de bon ton d'aller héberger un mousquetaire. Les familles riches hébergeaient un mousquetaire. Et donc, tout le monde s'installait dans les familles. Les mousquetaires s'installaient dans les familles. Et ils profitaient des fois, un petit peu aussi, de leur accueil. Donc, vous voyez, c'était des tombeurs de ces dames.
Ouais.
Voilà, donc il y a des phrases, voilà, ça s'est raconté. Ça.
De grands séducteurs.
De grands séducteurs.
En tout cas, on rappelle que c'est une conférence à ne pas manquer le mercredi 22 avril à 20h à la salle polyvalente de Rieux. Est-ce que durant cette conférence, tu vas chercher à réconcilier le mythe et la réalité ou au contraire, tu vas essayer d'opposer les deux pour se concentrer vraiment sur cette réalité?
Écoutez, je vais parler de la réalité, c'est sûr. Et les gens qui connaissent les Trois Mousquetaires, qui n'a pas lu les Trois Mousquetaires, vont pouvoir faire un petit rapprochement aussi, je leur dirai. Voyez, là, Athos, Porthos et Aramis, vous les voyez, ils ont existé. Mais peut-être que le vrai D'Artagnan ne les a pas rencontrés. C'est Dumas qui les a mis en scène. Mais ils ont existé. Ils ont été différents dans la réalité. Parce que quand on voit Porthos, un gros monsieur, etc., c'était pas ça. Mais il a vécu longtemps. Ensuite, on a sa vie. D'Athos aussi. Athos, qui était un beau jeune homme. Dans les Trois Mousquetaires, on le fait vivre longtemps, mais en réalité, la réalité, c'est qu'il a été tué dans un duel à 30 ans.
Et pour en savoir beaucoup plus sur la vraie vie de D'Artagnan, c'est une conférence à ne pas manquer le mercredi 22 avril. C'est à 20h qu'il faut vous rendre à la salle polyvalente de Rieux. C'est organisé par La Pupe en Vol en collaboration avec l'association Histoire et Tradition Carbonaise, avec une entrée libre et gratuite. Et c'est Christian Lacombe, historien local, qui présentera la conférence. Merci à toi.
Merci à vous.
Et bonne conférence.
Merci.
Radio Galaxy, c'est la radio que j'écoute.